Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News.
Le journal, c'est avec Vishwani. Bon après-midi à vous.
Bon après-midi Sonia, bon après-midi à tous. En réponse à la PNQ de Xavier Duval, transfert de 60 milliards de roupies de la Banque de Maurice vers le Consolidated Fund. Il ne peut être comptabilisé comme une dette publique. Il n'y a pas d'obligation de repaiement, réplique Ranganathan Padayachi au leader de l'opposition. Question soulevée après le jugement rendu dans l'affaire Betamax. L'avis légal du Solicitor General d'Irène Déby avait-il été respecté et dévoilé au Conseil des ministres? Incident survenu à Valépito, la police procède à une quatrième arrestation. Dortoir a converti en zone rouge, ZEP pensait qu'il avait travaillé à Rétranzé, pas important, s'insurge à Choc-Soubron. À l'étranger, plus de 600 000 morts de la Covid-19 aux États-Unis, la Californie et New York rouvrent. Réponse à la PNQ de Xavier Duval qui souhaitait savoir comment cette contribution exceptionnelle de 60 milliards de roupies au gouvernement a été utilisée par rapport au déficit budgétaire et la dette publique pour l'année financière 2020-2021. Le ministre des Finances a fait ressortir que des mesures non conventionnelles ont été prises pour sortir de la crise en période de pandémie, préserver les vies et les moyens de subsistance des travailleurs. Ranganathan Padayachi a aussi fait ressortir que la Banque de Maurice a pris cette décision pour préserver, protéger le système bancaire, une contribution faite conformément à la section 6.1 de la Bank of Mauritius Act.
Le FMI préconisait l'application d'une politique à trois niveaux pour maintenir la capacité de production des biens et services, prévenir les défauts de paiement, éviter les faillites, préserver les emplois. Monsieur le Président, nous avons suivi à la lettre ces recommandations. Pour y parvenir, des mesures non conventionnelles étaient nécessaires. Monsieur le Président, si les autorités n'avaient pas agi avec courage et détermination, l'économie aurait souffert encore davantage. Comme un effet boule de neige, nous aurions été des tristes témoins d'une vague de défauts de paiement et de faillites qui aurait entraîné une explosion du chômage. En brisant de la sorte notre capacité de production, le spectre des 100 000 chômeurs, de l'hyperinflation et de plus de 30% de nos entreprises en faillite auraient été une réalité. 100 000 chômeurs et plus de 30% de nos entreprises en faillite impliquent l'effondrement de notre système bancaire et le chaos économique, financier et social. Monsieur le Président, dans pareille situation et pour protéger le système bancaire, la Banque de Maurice a pris la décision d'apporter une contribution exceptionnelle au gouvernement à hauteur de 60 milliards de roupies afin de stabiliser l'économie.
Et Xavier Duval devait alors faire référence aux deux public notices émis par la Banque centrale en mai et juin de l'année dernière concernant les 32 milliards de roupies puisées du Special Reserve Fund et le solde de 28 milliards de roupies traité comme une avance sur les futurs bénéfices distribuables au gouvernement. Et le leader de l'opposition a aussi fait référence à la Public Debt Management Act qui stipule que toute avance constitue une dette publique.
We have already reached 100,000 chômeurs. That is the figure from Statistics Mauritius itself. Now I will refer the Honourable Minister. I know it's a technical question, so I hope you will answer. Now, the public notice by the Bank of Mauritius, two public notices, 7th of May, 4th of June, they refer to advances given to government against future profits. I refer the minister also to the Public Debt Management Act, our own Public Debt Management Act. And this is what it says, Mr. Speaker, Section 6.1, any debt incurred by way of advances from the Bank of Mauritius to any entity in the public sector shall constitute public sector debt. So his treatment, Mr. Speaker, is illegal vis-à-vis the Public Management Act.
Et cette contribution ne peut être comptabilisée comme une dette publique, a précisé de son côté Ranganathan Padayachi en énumérant trois points dont aucun accord de prêt ni d'obligation de repaiement.
Monsieur le Président, j'affirme que les 60 milliards de roupies ne peuvent pas être comptabilisés comme une dette publique pour les raisons suivantes. Premièrement, il s'agit d'une contribution faite dans un contexte exceptionnel lié à la pandémie. Deuxièmement, il n'y a jamais eu et il n'y aura pas d'accord de prêt. Et de ce fait, troisièmement, il n'y a pas d'obligation de repaiement et donc pas de calendrier de paiement ni d'intérêt à verser.
Toujours au Parlement, les débats budgétaires se poursuivent cet après-midi. Et puis hier, le député du MMM, Rajesh Bhagwan, lui s'est montré très critique envers le ministre des Finances. Le député Mauve a dit ne pas comprendre pourquoi cette taxe sur les prix des carburants, alors que le gouvernement, dit-il, a dépensé plusieurs millions de roupies sur l'achat de vaccins anti-Covid et en a reçu des milliers d'autres. Selon Rajesh Bhagwan, il y a une colère grandissante au sein de la population.
Prenez les sanctions, nous disons au gouvernement. Prenez les sanctions et laissez les institutions fonctionner sans ingérence. Jamais, je suis ici presque bientôt 40 ans, monsieur le président. J'étais au gouvernement et dans l'opposition. Jamais nous avons vu une ingérence, une dégradation, autant de dégradations dans les institutions de notre pays, de notre public. Institution après institution, il y a ingérence, il y a une dégradation. La population est remontée contre l'inaction léthargique du gouvernement envers ses fraudeurs, ses corrompus et soi-disant gestionnaires qui dilapident les fonds publics. Cette inaction suscite des interrogations et le public commence à se demander qui tire réellement les ficelles.
Par ailleurs, selon une plainte de la police au poste de Coromandel, l'homme d'affaires Jean-Michel Lichim serait un conseiller au bureau du Premier ministre. Et lors de son intervention des débats budgétaires hier, le député du MMM, Rajesh Bhagwan, a demandé des explications au Premier ministre.
Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris ? On a pris ce monsieur, monsieur Lichim, LKF, LS, monsieur LS. Voilà, monsieur LS, voilà, c'est déjà un papier, monsieur le président. Il a eu un problème, il est allé à la police de Bobassin, mais il est advisor de Prime Minister Office. Nous voulons savoir du gouvernement, est-ce que monsieur LS est un advisor, tout comme monsieur Dumaï, advisor de Prime Minister Office. Est-ce que monsieur LS, JMLS, grand magnat du jeu et principal bailleur du fonds, propriétaire de SMS Royals, ça je peux le dire, c'est entré, SMS Royals, est advisor dans un hobby 729-21 Division, Western Division, la police. Voilà, il s'est présenté lui-même comme un advisor. Le Premier ministre aura le temps de nous dire, de venir démentir. C'est public, c'est dans le domaine public. Aujourd'hui, dans tous les journaux, dans tous les online, M. LMS se présente comme un advisor.
Autre sujet d'actualité, après le jugement du Privy Council, l'État qui se retrouve donc avec un montant colossal à hauteur de 5,4 milliards de roupies à payer à Betamax après avoir résilié son contrat en 2015. Certaines clauses du contrat étaient-elles vraiment la raison derrière la résiliation par le gouvernement ? Ce contrat a-t-il été résilié légalement ? Autant de questions qui sont plus que jamais posées. Et hier, au cours de notre Zoom Extra, l'observateur Harish Chandan Singh est venu souligner un point d'importance capital. En effet, lorsque l'affaire avait été référée au Centre international d'arbitrage de Singapour, même le représentant légal de la STC, dit-il, avait affirmé que le contrat avait été résilié pour des raisons politiques et à cause d'un changement de gouvernement. C'est inacceptable, soutient Harish Chandan Singh, et que ce soit aux contribuables maintenant de payer les pots cassés d'une vengeance politique.
C'est pas rien d'illégal dans tout cela, c'était beaucoup plus un vendetta politique. Pour moi, l'éclair qui s'est affaire là, Zodizou, un contribuable mauricien, en présence d'un très salé, qui concerne 5 000 millions roupies, et c'est la faute de qui ? C'est des bandes politiciens qui finalement comptent pour régler, et c'est aussi les contribuables mauriciens qui bien payent les pots cassés, et qui est inacceptable. Zodizou. Et là, nous bien penser que nous n'arrivons à l'instance que Zodizou nous bien situer les responsabilités.
Et Harish Chandan Singh devait aussi affirmer que c'est maintenant important de savoir quel était l'avis du Solicitor General, maître Dhiren Deby, et si le gouvernement en avait fait fi. Il soutient qu'il faut mettre sur pied une commission d'enquête sur les circonstances menant à la résiliation de ce contrat.
Dans le cas présent, pour une décision pareille, le gouvernement, normalement, pour prendre conseil de ce Solicitor General. Il pourrait soit un général qui est son principal légal advisor, mais il y a un Solicitor General qui est un fonctionnaire. Dans ce cas précis, c'est M. Dhiren Deby qui est un fonctionnaire très respecté. Mais ça pose la question, est-ce que l'avis légal de M. Dhiren Deby s'est sollicité avant de résilier le contrat? Et si oui, quel était l'avis qu'il s'est donné? Et est-ce que c'est une commission d'enquête pour nous montrer qu'il n'arrivait et... Bon, pour aller plus loin. Nous, vous bisez, c'est connu aussi. Qu'est-ce qui, quand l'avis légal qui M. Dhiren Deby, M. Dhiren Deby, nous donnait, les filles n'arrivaient à la table cabinet ou non. À cause ça, il est pour important que si donne une commission d'enquête dans son attribution de ce terme de référence, bizarre, il y a une chose qui provision qui permet qu'il lève sa secret cabinet papersa pour que nous ait trop plus clairement responsabilité. Est-ce qu'il fin dissimule ban papier avec cabinet? Qui cabinet est-ce qu'il n'est pas fini là en présence de tous les éléments quand il se prend une décision pour lui résilier le contrat?
Travaux de l'enquête judiciaire sur la mort suspecte de Subramania Kisnan. Hier, Roshi Bada a lancé un appel aux partisans du MSM de Moka, quartier militaire, circonscription où a été élu Yogida Sorminaden. Pour Maître Bada, ceux qui ont soutenu le MSM lors des dernières élections ne peuvent rester insensibles après certaines révélations en cours de Moka. Et Roshi Bada qui leur demande ainsi d'agir et de réclamer la démission de l'ancien ministre Yogida Sorminaden en tant que député.
Moi, mon père de Spectre, je vous MSM, l'armée master. Si vraiment j'ai une petite dignité, ramène un service. Soit je tiens un petit show dans numéro 8 et je te soumets ça à Pravin Jagnat pour dire qu'ils ont demandé révocation de Yogida Sorminaden depuis dans sa parlement là. C'est juste Pravin Jagnat qui est capable de faire lui, mettre ce début show comme un député, quitte sa parlement là parce qu'il n'est pas mérite pour représenter sa circonscription là, dans sa parlement là, là-bas. Nous guetter s'il prend ses responsabilités, non seulement comme premier ministre, mais comme leader du MSM, s'il est capable de garder sa qualité de Djibouna dans ce parti. Moi, en tant que leader du Reform Party, je vous dis à vous, un Djibouna comme ça, une minute, une seconde, je vais rester dans le Reform Party. Hasta nous guetter s'il reste dans le MSM.
Incident survenu à Valépito. Les hommes du détective inspecteur Gouraille de la CID Metro North ont arrêté un homme de 23 ans durant la journée d'hier. Il s'agit de Ahmad Shehzad Krazid Roheman, un habitant de Valépito. Ce jeune homme a nié toute implication dans cette affaire et a réfuté les allégations portées contre lui. Cependant, il a été positivement identifié par une autre personne interpellée par rapport à ces incidents. Et Ahmad Shehzad Krazid Roheman a été provisoirement inculpé pour rébellion devant le tribunal de Port-Louis. Le prévenu a été reconduit en cellule policière. Rappelons que dans la soirée du lundi 7 juin, des habitants en colère ont défié les forces de l'ordre et enlevé les barrages routiers délimitant la zone rouge. Et puis, le porte-parole de la General Workers Federation, Ashok Soubron, se dit horrifié par le traitement infligé aux travailleurs étrangers à Maurice. Cela après que deux dortoirs ont été décrétés zone rouge le 8 juin dernier. Le syndicaliste a fait état d'une explosion de cas de coronavirus au Princess Tuna après que l'usine a été décrétée zone rouge. Selon lui, les travailleurs étrangers devraient être admis au centre de quarantaine comme c'est le cas pour les citoyens mauriciens.
Nous extrêmement horrifiés avec la façon qui l'autorité concernée peut deal avec le cas COVID envers les travailleurs étrangers. Au limite, ça m'a dit que là, dans un propre quarantine center, comme tout Mauricien allait, il fait comme d'autres élèves dans un quarantine center. Résultat, c'est qu'il y a un week-end, nous trouvons une explosion dans le cas COVID parmi les travailleurs. C'est la princesse Chuna qui nous fait trouver ça. C'est pour ça qu'il nous a envoyé l'État premier ministre lui-même, parce que c'est lui qui décrète sa zone rose là. Il nous fait demander qu'il arrête ça une fois pour toutes. Quand Zimoun Pizlin a le demande quarantaine centre, je n'ai le demande quarantaine centre. Pas service à d'autres qui mal équipé, que Zimoun vive en densité, que risque infection grand, et on peut penser que la vie d'un travailleur étranger, pas important. Migrant workers' lives don't matter for this government. Il faut rectifier.
Et rappelons par ailleurs que deux cas de coronavirus ont été enregistrés dans la soirée d'hier. Selon le communiqué du ministère de la Santé, deux cas détectés suite aux exercices de contact tracing en cours. Ces deux personnes étaient déjà en centre de quarantaine et le pays compte donc à ce jour 390 cas actifs de COVID-19. 104.4 Central, 105.7 East and West, 106 North and South. Top of them. Plus de 600 000 morts de COVID-19 aux États-Unis. Le virus qui a emporté donc plus précisément 600 185 personnes dans le pays. Et un triste jalon a déploré le président Joe Biden en appelant les Américains à se faire vacciner dès que possible. Presque toutes les restrictions ont été levées par ailleurs mardi en Californie. Idem à New York qui a atteint les 70% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin permettant au gouverneur d'annoncer là aussi la levée des dernières restrictions. Et un peu plus de 52% de la population américaine africaine, soit 174 millions de personnes, donc déjà reçu au moins une dose de l'un des trois vaccins autorisés dans le pays. Joe Biden a donc fixé comme objectif que 70% des adultes aient reçu au moins une dose au 4 juillet, jour de la fête nationale. En Colombie, un attentat à la voiture piégée a fait 36 blessés dans une base militaire de la ville de Cúcuta, dans le nord du pays, selon le gouvernement qui a attribué cette attaque à la guérilla de l'ILN. Et puis, procès Bimalion en France ce mardi 15 juin. Nicolas Sarkozy était interrogé comme prévenu pendant de longues heures par le tribunal de Paris dans le procès des comptes de campagne. L'ancien président a redit avec véhémence qu'il ne s'occupait ni du coût ni de l'organisation de ces meetings et qu'il n'était donc pas au courant des dépenses. L'ancien président français est donc accusé de financement illégal de campagne électorale en ayant laissé les dépenses de sa campagne présidentielle de 2012 s'envoler au-dessus des plafonds autorisé par la loi. Le rappel des titres. Transfert de 60 milliards de roupies de la Banque de Maurice vers le Consolidated Fund. Il ne peut être comptabilisé comme une dette publique. Il n'y a pas d'obligation de repaiement, réplique Ranganathan Padayachi au leader de l'opposition. Question soulevée après le jugement rendu dans l'affaire Betamax. L'avis légal du Solicitor General d'Irène Déby avait-il été respecté et dévoilé au Conseil des ministres? Incident survenu à Valépito, la police procède à une quatrième arrestation. Et dortoir converti en zone rouge. Zotpé pensait qu'il avait travailleur étranger, pas important, s'insurge à Choc-Soubron. Et dans le monde, plus de 600 000 morts de la Covid-19 aux États-Unis, la Californie et New York rouvrent. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon après-midi à l'écoute de Top FM et à l'écoute de Sonia.
Thank you, Vishwani.